Lizzie présente Les chemins de Katmandou de René Barjavel, lu par Christophe Brault avec la participation de Benjamin Jungers.
Note de l'éditeur. Barjavel a ouvert un immense horizon à la littérature française, celui de la science-fiction. La nuit des temps, entre épopée scientifique et sublime chant d'amour, a marqué l'imaginaire de générations de lecteurs à travers le monde. Mais le romancier a toujours su regarder son époque, captant avec justesse, ou les anticipant, ses désirs, ses espoirs, ses doutes, dont ceux d'une jeunesse revendiquant des rêves d'absolu. À l'origine, Les chemins de Katmandou était un film d'André Kayat avec notamment Jane Birkin et Serge Gainsbourg. Barjavel en signa les dialogues et le scénario avant d'écrire le roman qui paraît en 1969, où l'auteur précise dans sa préface « Mon livre est-il bon ou mauvais? Je ne le sais pas. Je le saurai peut-être dans 10 ans. Mais je sais qu'il est vrai. » S'y retrouvent ses thèmes chers, récurrents, le lien fragile entre la nature et l'homme, une certaine idée de la fraternité, l'incessante recherche du bonheur. 50 ans plus tard, son œuvre nous interpelle toujours par sa modernité, son humanisme et sa sagesse. Et les mots du romancier perdurent. Celui qui copie la nature est impuissant, celui qui l'interprète est ridicule, celui qui l'ignore n'est rien du tout. À la déesse Orange de Katmandou. Ceux qui se rendront à Katmandou ne reconnaîtront pas ce qui est écrit dans ce livre. Ceux qui suivront les chemins qui y mènent ne reconnaîtront pas les chemins de ce livre. Chacun suit son chemin, qui n'est pareil à aucun autre, et personne n'aboutit au même lieu, dans la vie ni dans la mort. Ce livre ne cherche pas à donner une idée de la réalité, mais à s'approcher de la vérité. Celle de Jane et celle d'Olivier, dont il raconte l'histoire. Un incendie brûlait derrière le brouillard. Jane envoyait la lumière vague en haut et à droite du pare-brise. Cela donnait à l'image floue encadrée dans la vitre l'apparence d'une pellicule voilée par un coup de soleil rouge. Mais à gauche et à droite de la voiture, le brouillard gris continue à couler lentement, comme le fond d'un fleuve dans lequel se déversent des égouts depuis l'éternité. Jane ne savait pas où elle se trouvait, ne savait pas ce qui brûlait, commençait à ne plus savoir qui elle était. Elle aurait voulu ne plus rien savoir, plus rien, rien, et que le monde entier brûlât et s'écroulât sur elle pour écraser dans sa tête ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait entendu, le visage soudain figé de son père, le geste surpris interrompu, les mots de l'autre, la main, le rire de l'autre, le regard éperdu de son père sur elle, le désespoir dans le regard de son père, toute la scène immobile, gravée pour toujours, en blanc et noir, au fond de sa mémoire glacée. Pourquoi avait-elle ouvert cette porte? Pourquoi? Pourquoi quoi? Elle ne savait plus pourquoi, elle ne savait plus quoi, elle ne savait plus. Elle était sortie de la maison en courant, se mordant les lèvres pour ne pas hurler, s'était jetée dans sa voiture, avait bousculé le pare-choc de la voiture avant, de la voiture arrière, avait grincé contre un autobus couleur de sang voilé, s'était enfoncée dans le fleuve du brouillard gris. Depuis des heures, des jours peut-être, depuis quand? Il n'y avait plus de jour, il n'y avait plus de temps. Elle roulait, s'arrêtait, repartait, accrochée par les yeux au halo des feux de la voiture qui la précédait lentement, qui s'arrêtait, qui repartait, au fond du fleuve mort qui noyait la ville. Les feux qui la précédaient s'arrêtèrent et ne repartirent plus. La lueur rouge en haut et à droite du pare-brise palpitait. Il y avait dans le fleuve gris en dehors de la voiture des bruits de cloches et de sirènes étouffés, des cris et des paroles, et des sifflets entourés de coton. Jane sortit de sa voiture sans arrêter le moteur. C'était une belle petite sportive du continent, couleur de citron, que le brouillard recouvrait comme une housse de toile sale. Jane sortit et s'en alla, laissant la portière ouverte. Elle parvint jusqu'au trottoir. La grille d'un jardin devant une maison l'arrêta. Elle repartit en longeant la grille. Le brouillard était un des plus épais brouillards que Londres eût jamais suinté. Il sentait la suie, le mazout, la poubelle et le rat. Il se posa sur Jane, l'enlaça de ses bras mouillés, glacés, baisa ses yeux pervenches, accrocha des larmes à ses cils, trempa ses cheveux, leur donna la couleur de l'acajou ciré, coula avec eux sur ses épaules et mouilla sa robe. Jane ne sentait ni le froid ni l'odeur du brouillard. Elle marchait le long d'une grille et devant une maison, puis encore le long d'une grille devant une maison, et encore une grille interminablement toujours la même. Elle n'en voyait ni le commencement ni la fin. Trois barreaux à la fois, du coin de l'œil gauche, le fleuve gris noyait le reste. Sa courte robe de soie verte, trempée, sous laquelle elle ne portait qu'un slip orange, était devenue presque transparente, moulait ses hanches à peine dessinées, ses petits seins tendres que le froid crispait. Elle marchait le long d'une grille, et d'une grille. Elle se heurta à une forme sombre, lourde, plus haute et plus large qu'elle. L'homme la regarda, et de tout près il la vit nue sous le brouillard. Elle voulut repartir. Il écarta un bras devant elle, elle s'arrêta. Il la prit par la main, la conduisit au bout de la grille, entra avec elle dans une étroite allée, lui fit descendre quelques marches, ouvrit une porte, la poussa doucement dans une pièce et ferma la porte derrière eux. La pièce était sombre et sentait le hareng salé. Il tourna un bouton. Une faible ampoule s'éclaira au plafond entourée d'un abat-jour rose. Il y avait le long du mur, à gauche, un lit étroit, soigneusement fait, recouvert d'un couvre-lit de crochet blanc dont le dessin représentait des anges avec des trompettes et qui pendaient sur les côtés avec des pointes de losanges terminées par des glands. L'homme plia le couvre-lit et le posa sur le dossier d'une chaise à la tête du lit. Sur la chaise, il y avait un transistor et un livre fermé. Il appuya sur le bouton noir du transistor et les Beatles se mirent à chanter dans la pièce entière. Jane les entendit et cela lui donna une sorte de chaleur intérieure, un réconfort familier. Elle était restée debout près de la porte et ne bougeait pas. L'homme vint la prendre par la main, la conduisit jusqu'au lit, la fit asseoir, lui ôta son slip, la coucha et lui écarta les jambes. Quand il s'allongea sur elle, elle se mit à crier. Il lui demanda pourquoi elle criait. Elle ne savait pas pourquoi elle criait. Elle ne cria plus. Les Beatles avaient fini de chanter, remplacés par une voix triste et mesurée. C'était le Premier ministre. Jane se taisait. L'homme sur elle haletait discrètement, occupé avec soin à son plaisir. Avant que le Premier ministre eût commencé à énumérer les mauvaises nouvelles, l'homme se tut. Au bout de quelques secondes, il soupira, se releva, s'essuya avec le slip orange tombé au pied du lit, vint jusqu'à la petite table près du fourneau à gaz, vida dans un verre ce qui restait de la bouteille de bière et but. Il retourna près du lit, fit relever Jane avec des gestes et des mots gentils, remonta avec elle les quelques marches, la conduisit au bout de la petite allée, l'accompagna quelques pas le long de la grille, puis la poussa doucement dans le brouillard. Elle fut pendant un instant une pâle esquisse verte, puis disparut. Lui restait là, immobile. Il avait gardé à la main le slip orange qui dessinait au bout de son bras le fantôme flou d'une petite tache gaie. Il le mit dans sa poche et rentra chez lui.